France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Eh bien, bonjour, je suis Jean-Claude Casadesus, chef d'orchestre, et heureux d'être à France Musique.
Bonjour Jean-Claude Casadesus.
Bonjour cher Lionel.
Je suis ravi de me retrouver avec toute l'équipe ici dans votre appartement. Faut dire où il est cet appartement quand même, il est en dessous de la butte Montmartre à Paris. C'est peut dire que c'est un appartement familial, presque dynastique en fait.
Alors écoutez, mon grand-père, comme vous le savez sans doute, était le 9e enfant d'une famille de 14 qui a émigré de Catalogne au début du siècle dernier, même à la fin du siècle précédent. Et mon grand-père a intégré cet appartement dans les premières années 1910-1911. Donc avec ses frères et ses sœurs, il avait fondé le premier très célèbre orchestre baroque du siècle dernier, à la demande d'ailleurs de son père qui voulait que tous ses enfants soient musiciens. 14 enfants, il en a survécu 9. Le père était expert comptable, Luis, catalan, et il était guitariste amateur, violoniste amateur et expert comptable. Et il jouait dans les boîtes de nuit le soir, ce qui m'arrivera plus tard aussi également, je vous le raconterai, peut-être, je ne sais pas, par héritage, mimétisme. Et quand il rentrait tard dans la nuit, passionné par la musique et vraiment complètement déterminé à ce que ses enfants en fassent, il les réveillait. Alors il leur disait, alors dis donc Henri, toi, qu'est-ce que c'est que cette note? Alors le pauvre gosse, si bémol, non, là, pan, une claque, il leur a donné à tous l'oreille absolue. Voilà, il était un peu directif, mais un amoureux fou de musique, et mon grand-père, avec ses frères et ses sœurs, dans cette pièce où nous sommes, a créé la Société des instruments anciens, et a parcouru le monde entier. Vous avez sur ma cheminée, qui est juste derrière vous, une photo historique de Tolstoï qui dit « C'est une des plus belles choses que j'ai entendues ». Ils ont joué dans sa datcha, et puis pour toutes les cours d'Europe. Bref, dans cette pièce, donc début du siècle dernier, grandes envolées musicales, défilé de tous les compositeurs et artistes célèbres de l'époque. Donc si les murs parlaient, ils vous raconteraient des histoires extraordinaires. Camille Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov, Fauré, Poulenc évidemment plus récemment, et Darius Milhaud. Honegger m'a fait sauter sur ses genoux dans cette pièce. Donc dans cet appartement, maman est née, son frère Christian est né, et mon grand-père répétait donc avec tous ses amis, musiciens et ses frères, ses sœurs et tous les visiteurs qui sont parvenus jusqu'à ce 5e étage qui à l'époque n'avait pas d'ascenseur.
Henri Casadesus, donc le grand-père, je reviens un peu sur lui, parce qu'il a eu une vie absolument incroyable de musicien, de compositeur aussi, composé pour de l'opérette, entre autres, il était pasticheur.
Alors, l'époque conduisait un certain nombre de musiciens à se substituer, si j'ose dire, au nom de grands compositeurs. J'ai sous les yeux d'ailleurs une partition que je vais diriger très prochainement, qui est un concerto de Handel pour alto et orchestre, entièrement écrit par mon grand-père. Vous savez que son frère Marius a lui-même entièrement écrit le dernier concerto pour violon de Mozart, qui s'appelle le concerto Adélaïde. Donc la mode à l'époque était souvent en effet de substituer au nom des grands compositeurs son propre nom, peut-être pour des raisons, je ne sais pas, commerciales, j'en suis pas sûr, mais il est certain que leur talent leur permettait de faire des à la manière d'eux, qui étaient très très remarquables.
Les enfants d'Henri Cazatzu, votre grand-père, est-ce qu'ils ont tous été musiciens ?
Alors les enfants de mon grand-père, il en avait deux, ma mère et mon oncle, eux, ils ont été comédiens. Donc normalement, j'aurais dû tourner dans une autre direction, puisque le mimétisme impose aux enfants de copier un peu ce qu'ont fait leurs parents. Et j'ai vraiment, à une époque, j'ai vraiment failli me diriger vers le théâtre. J'ai même joué une pièce de Courteline, Théodore cherche des allumettes. Alors, quand j'avais 15 ans, ma mère jouait Feu la mère de Madame de Courteline, et moi-même, j'ai joué Théodore cherche des allumettes. Ensuite, je voulais être grand reporter, je voulais faire Sciences Po, et puis finalement, la musique m'a rapté, mais elle m'a rapté dès ma plus tendre enfance. Elle m'a ravi, c'est-à-dire qu'elle m'a arraché à mon propre univers. Vous savez, une note, tout d'un coup, peut transformer l'univers.
À la naissance de la musique, Jean-Claude Cazatzu, la naissance de la musique chez vous, bien évidemment, il y a une photo avec un bambin qui a 3 ans, 4 ans, qui tient un violon.
Ah, 4 ans et demi, oui, il a, là, il a 5 ans, là. Il a, ouais. Oui, il a un violon dans les mains, il est en barboteuse. Et Pierre Monteux, qui était un très grand ami de mon grand-père, et mon grand-père m'ont mis dans les mains ce violon, voilà, en décidant eux-mêmes que je serais musicien. Mais mes parents ne souhaitaient pas que je sois musicien. Mes parents s'y sont opposés. C'est pour ça que ça a renforcé certainement mon désir. Pourquoi ils ne le souhaitaient pas ? Parce qu'ils pensaient que les aléas du métier, que la difficulté d'un artiste, en effet, aurait pu contrevenir à une évolution, je dirais, épanouissante de ma personnalité. Donc, je les remercie de s'être opposés, parce que ça m'a permis, de m'opposer à leur opposition.
Vous avez aimé ça, le violon ?
Alors, ça m'a donné un grand amour pour les cordes, parce que mon grand-père était un magnifique altiste et un soliste de la viole d'amour, qu'il jouait vraiment merveilleusement bien. Je n'oublierai jamais la suite en ré de Jean-Sébastien Bach, qu'il jouait à merveille, et j'en ai gardé un amour indéfectible pour les cordes. J'ai adoré le violon, mais comme ça m'a beaucoup fatigué, je l'ai abandonné au bout de 3 ans. J'ai eu le violon pendant 4 ans. Oui, 3. Ah oui, j'avais des crampes dans le coude gauche, vous savez, vous avez le coude gauche qui rentre à l'intérieur devant la poitrine. Avec la main gauche, vous devez tordre votre poignet. Et j'aimais beaucoup produire des sons sur le violon. Je ne suis pas sûr que mon environnement aimait autant que moi le son que je produisais. Mais ensuite, je me suis dirigé très naturellement vers le piano.
Et le piano, pour le coup, là, ça a été naturel.
Le piano, c'était assez naturel, oui. Je ne savais pas lire la musique, mais j'improvisais dans l'esprit de ce que j'entendais comme musique autour de moi. Et quand j'ai été au concert, je revenais et je m'efforçais de retrouver les harmonies de Gershwin, les harmonies de Chopin, les harmonies de Beethoven. Et j'écrivais des valses de Chopin, comme mon grand-père a écrit des concertos de Handel et de Carl Philipp Emanuel Bach. J'écrivais des valses de Chopin à ma mère. J'avais 12 ans, 13 ans.
Et à un moment, pourtant, vous arrêtez la musique complètement.
Alors j'ai arrêté, j'ai eu un rejet de l'enseignement caporaliste de la musique entre 8 ans et 12 ans. C'est-à-dire que j'allais à un cours de solfège très très réputé, mais très sélect, mais extrêmement exigeant, qui était rue de Clichy, chez Madame Samuel Rousseau, qui était une femme extrêmement respectable, qui avait tout un pool d'enseignants. On était dans un hôtel particulier, tout à fait extraordinaire. Il y avait une professeure de piano très stricte, avec un chignon très serré, des sourcils permanents froncés, qui avait une règle à la main et qui, de temps en temps, vous tapait sur les doigts quand vous faisiez une fausse note. Enfin, tout ça a été très contraignant et a été en opposition totale avec ce que j'ai cru nécessaire de transmettre aux enfants dont je me suis occupé plus tard, c'est-à-dire la ludicité avant la théorie. C'est-à-dire le plaisir d'aller plus loin, c'est-à-dire une chose qui est très importante, c'est transmettre un désir. Pour l'accomplissement du désir, il faut comprendre que la rigueur est indispensable, mais il faut faire en sorte que la rigueur devienne volupté pour l'accomplissement du désir.
Je vais revenir à votre maman, Gisèle Casadesus. Elle habitait toute sa vie elle, à côté, en fait, parce qu'il y a deux appartements ici, si
oui,
j'ai bien
nous
compris.
Nous sommes au cinquième étage, donc au pied de la butte Montmartre. Il y avait trois appartements, il y a deux entrées, il y a deux escaliers, mais sur le même étage. Et les appartements, qui au départ étaient séparés, ont été réunis à une époque et reséparés. Et hélas, maman nous a quittés il y a 3 ans. Et à ce moment-là, mon appartement, sur le même étage qui n'avait pas l'ascenseur, m'a conduit à creuser le mur, à réunir l'appartement, le mien, avec celui de ma mère, qui était donc au même étage et qui, elle, avait l'ascenseur. Donc voilà, maintenant j'ai un appartement un petit peu plus grand et il y a un troisième appartement que mon frère Dominique, qui est compositeur, qui est le père d'une chanteuse qui s'appelle Tatiana, et donc il a racheté une autre partie de l'appartement et nous occupons avec ma sœur Martine Pascal, qui est actrice. Elle vit juste au-dessus de nous et mon frère a acheté cet appartement pour sa fille et son petit-fils qui vient de naître. Voilà.
Pardon, comment ça s'explique pour vous, Jean-Claude Casadesus, que toute la famille soit dans la musique, dans le théâtre, dans les arts en règle générale?
Alors écoutez, il y a un petit mystère, je ne sais pas d'où il vient, mais il est certain que, à part un banquier et une infirmière, ce qui est nécessaire, l'un pour régler les affaires, l'autre pour essayer de pallier le problème psychiatrique qui est la schizophrénie chez des artistes, mais tout le monde est tombé dans la marmite, que ce soit la musique en premier, le théâtre, la peinture. J'ai une sœur, Béatrice Casadesus, qui est peintre, prédôme de peinture, de sculpture, qui fait des expositions. Ma sœur Martine est actrice, mon frère Dominique est compositeur. Ma fille Caroline est chanteuse, mes petits-enfants David et Thomas sont de magnifiques musiciens. Voilà, il y a quelque chose d'un peu étrange, mais de terriblement encourageant. Nous avons un lien très très fort, on s'entend bien, et chacun travaille de son côté, parce que vous savez que on a beau vous dire « Oh, vous êtes tous doués, vous êtes tous doués », vous savez ce que disait Jouvet, 5% de dons, 95% de transpiration. Donc il faut faire son chemin, ça n'a rien de facile, mais la passion est un moteur absolument exceptionnel.
Votre maman, donc, Gisèle, habitait juste à côté, enfin vous avez vécu à côté de chez elle toute votre vie, vous avez pris son nom d'ailleurs, puisqu'en fait vous étiez normalement avec le nom de votre papa, Lucien Probst.
Oui, mais dont le nom de théâtre était Lucien Pascal. Alors quand j'étais en classe, on me disait « Alors comment vous appelez-vous ? » Je disais « Ben moi je m'appelle Probst, mon père s'appelle Pascal et ma mère s'appelle Casatsu. » Alors évidemment ça leur posait un tout petit problème d'ajustement. Et mon grand-père avait souhaité que ceux de la famille qui feraient de la musique, et surtout, enfin, les premiers héritiers, son père avait tellement insisté, Louis Casatsu, pour que tous ses enfants soient musiciens, pour que, au fond, on garde une sorte d'identité à travers le nom de Casatsu. Et c'est comme ça que, très naturellement, j'ai gardé ce nom-là.
Ouais. Qui n'est pas seulement un nom de scène, qui fait qu'il est le nom
qui est pas seulement un nom de scène, qui est le nom de ma mère, et à la mode espagnole, d'ailleurs, vous savez très bien qu'on peut aussi prendre le nom de sa maman aujourd'hui. Ouais.
Cette importance du théâtre, ça dit quelque chose aussi de la famille, parce que tout l'art, en règle générale, Jean-Claude Casatsu, c'est une histoire de jeu. On raconte une histoire, on se met dans la peau d'un autre, même quand on est chef d'orchestre, un peu, non ?
Alors, on se masque aussi. Le théâtre, c'est une façon aussi de, peut-être, en habitant d'autres personnages, d'échapper à ses propres doutes. On vit par personne interposée au théâtre. La musique, c'est pas du tout la même chose. Il faut intégrer la pensée d'un compositeur, le servir, essayer de se glisser dans ses habits en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop grand pour vous. C'est une immersion de très très grande concentration, de très grande réflexion, qui exige beaucoup de technique et qui aussi doit conduire à une forme de métaphysique, c'est-à-dire l'au-delà du réel, comme on dit dans mon métier, apprendre à jouer ce qu'il y a entre les notes.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Claude Casatsu.
Jean-Claude Casatsu, dans cette famille dont vous nous parlez là, qui est une famille absolument incroyable d'artistes essentiellement, est-ce que vous avez une enfance heureuse ?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai pas adoré mon enfance. Bon, j'étais l'aîné de la famille. J'ai un frère, deux sœurs. Mon père n'avait pas eu de père, son père était mort à la guerre de 14. Françoise Dolto n'existait pas, il n'avait pas tellement de métier de parent, si j'ose dire. Quand il a été très âgé, il m'a dit « Oui, j'ai été dur avec toi, mais regarde ce que tu es devenu ». Je lui ai dit « Je ne sais pas ce que je suis devenu, mais je t'en aurais pas voulu si tu avais été un peu moins dur ». Il fallait dresser les aînés. Ouais, c'est une époque où il fallait. Donc, j'ai été élevé sévèrement. Ça a développé un peu ma nature rebelle. Je lui suis extrêmement reconnaissant du mur d'affection contre lequel j'ai pu faire mes griffes, parce que c'est vrai que le mot le plus difficile de la langue française, c'est non, mais je l'ai entendu souvent dans ma vie, non. Alors moi, je faisais oui quand même dans ma tête, mais c'est vrai que nous craignions, mes sœurs, frères et moi, l'autorité qu'avait su, je crois, avec beaucoup d'affection, beaucoup de droiture, beaucoup de conviction, certainement, qui avait su établir mon père. Mes vraies joies d'enfance, ce sont celles que j'ai éprouvées chaque fois que je mettais les pieds sur l'île de Ré. L'île de Ré a été une sorte de formidable réceptacle d'émotions de jeune homme, de premier flirt, de liberté, dans une nature absolument merveilleuse, les tamarins, l'odeur des immortels, l'odeur de l'iode, la mer, la voile, la pêche, quelque chose qui m'a envahi chaque fois que je mettais les pieds sur cette terre que maman a connue lorsqu'elle avait 7 ans, c'est-à-dire en 1922. Et à ce moment-là, c'était très sauvage, moi je l'ai connue un peu plus tard. Mais chaque fois qu'en effet j'avais l'occasion d'aller en vacances à l'île de Ré, c'était une grande joie, qui a été d'ailleurs contredite, cette joie, par l'exode, où nous, maman et moi, nous nous sommes, si j'ose dire, évadés vers l'île de Ré, partis en voiture un jour à 5 heures du matin, j'avais 5 ans. Et puis, on a été mitraillés à Châtellerault, on a plongé dans le fossé, on est remonté dans la voiture, on est arrivé à l'île de Ré. Quelques jours après, on a vu débarquer les convois nazis. Et je me souviens de maman, les larmes aux yeux, et ma grand-mère qui pleurait en voyant monter le drapeau nazi sur la mairie d'Arsenré. Ensuite, je suis allé un petit peu à l'école sur place. Et puis après, voilà, la vie a repris son cours, on est rentré à Paris. Mais depuis ma plus tendre enfance, comme d'ailleurs mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, ça a été un socle où la famille avait, si vous voulez, l'occasion chaque année de se réunir, alors qu'on est tous un peu dispersés pendant l'année, et qui a été une sorte de petite madeleine qui nous a un peu, je crois, transcendés.
Une grand-mère dont on n'a pas parlé aussi, qui était très importante, qui était, elle, pour le coup, la mère de votre père.
Alors, la mère de mon père m'a éveillé à l'opéra, parce qu'elle était agricultrice. Elle habitait aux environs de Paris, elle avait un jardin, mais d'Éden. Je me souviens de l'odeur de ses roses, de la senteur de son lilas, de son jasmin, du goût de ses pêches, de ses fraises, de ses groseilles à maquereau, de ses abricots, de ses cerises. C'était absolument extraordinaire. Elle se levait à 4h30, 5h du matin tous les jours et elle m'a initié. Mes premières émotions de lyrique, d'opéra, sont venues de ce qu'elle écoutait avec une grande passion. Elle avait perdu son mari, donc, comme je vous le disais, à la guerre de 14, et elle s'était murée dans son chagrin, tout en se plongeant dans le délice de la musique.
Et sur un tourne-disque, c'est ça qu'elle...
Voilà, sur un tourne-disque, à la radio aussi. À la radio, à l'époque, il y avait des émissions sur, je me souviens notamment, du Barbier de Séville, de Guillaume Tell, de Werther, que j'ai eu la joie de diriger beaucoup plus tard. Alors ça, c'était la maman de mon père. Mais du côté maternel, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était russe. Mon arrière-grand-mère était née à Odessa et elle avait rencontré les plus grands artistes du siècle. Du pianiste Zilotti, à Brahms, Wagner, puisqu'elle était née fin des années 60. C'est une femme extraordinairement énergique, professeure de piano, professeure de bridge. Elle était rousse, on disait qu'elle était rousse, russe et rosse. Mais elle adorait les garçons plus que les filles, et moi elle me vouait une grande tendresse, et je me souviens, puisqu'on évoque ma plus tendre enfance, je me souviens, je vous garantis que c'est encore très présent dans mon esprit, de sa présence accroupie devant mon parc, et elle me chantait la casquette du père Bugeaud. La casquette, la casquette, la casquette, la casquette, as-tu vu la casquette du père Bugeaud? Et je me souviens, je la revois, elle avait un petit chapeau noir avec une aigrette, et avec son accent russe, parce qu'elle parlait comme ça, mon chéri, je t'adore, non, je la déteste, elle. Enfin, elle était absolument pittoresque, je dirais.
Les dernières mesures du Bœuf sur le toit de Darius Milhaud par l'Orchestre National de Lille sous la direction de Jean-Claude Casadesus. Ainsi s'achève le premier épisode de nos grands entretiens de cette semaine. Préparation Flora Sternadel, réalisation Christine Amado, prise de son Laurent Macchietti, mixage Éric Boissé. Je vous retrouve demain pour la suite de nos grands entretiens avec Jean-Claude Casadesus. Épisode 2, une vie de musicien, de Paul Paré à Sheila.
À réécouter sur francemusique.fr.